Vous aviez vos photos sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles.
Missak Manouchian.
Mort pour la France.
Joseph Potchov.
Mort pour la France.
Olga Banchitz.
Mort pour la France.
Thomas Elek.
Mort pour la France.
Emeric Glash.
Mort pour la France.
Maurice Fingerzweig.
Mort pour la France.
Jonas Geduldi.
Mort pour la France.
Léon Goldberg.
Mort pour la France.
Shlomak Zhivach.
Mort pour la France.
Stanislav Kubatsky.
Mort pour la France.
Marcel Reimann.
Mort pour la France.
Willy Shapiro.
Mort pour la France.
Wolf Weissbrot.
Mort pour la France.
Robert Wittitz.
Mort pour la France.
Robert Ruxel.
Mort pour la France.
Arpen Tavitian.
Mort pour la France.
Georges Cloarec.
Mort pour la France.
Spartaco Fontano.
Mort pour la France.
Rino de la Vegra.
Mort pour la France.
César Lucerini.
Mort pour la France.
Amadeo Usaglio.
Mort pour la France.
Antonio Salvadori.
Mort pour la France.
Alfonso Celebagno.
Mort pour la France.
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, mais nos frères, pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, tout avait la couleur uniforme du givre.
Flight number 2, arriving from Kyoto.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais.
Le 19 février 1944, ces hommes étaient jugés à grand renfort de publicité par un tribunal militaire allemand. Le procès fut expédié en une journée. Le 21 février, ils étaient fusillés. Quelques jours après, la propagande nazie recouvrit les murs de France d'une affiche rouge avec les photographies des fusillés. Elle attribuait la responsabilité des attentats terroristes à des communistes étrangers en majorité juifs. 10 années plus tard, l'affiche rouge allait devenir le symbole du combat des immigrés pour la libération de la France. Et les 24 terroristes fusillés deviendront les légendaires résistants du groupe Manouchian, du nom de celui qui, au procès, fut désigné comme leur chef, le poète arménien Missak Manouchian.
Prison de Fresnes, le 21 février 44. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas. Mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire. Et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
Nous commémorons aujourd'hui le 60e anniversaire du martyre des 23 résistants émigrés et français fusillés par les nazis le 21 février 1944 et connus sous le nom du groupe Manoutchian-Boskov.
C'est plus compliqué que ça. On entend ça souvent dans le débat, on nous dit « c'est plus compliqué que ça ». Mais pour qu'il y ait du compliqué, il faut d'abord qu'il y ait du ça. Et ça c'est quoi ? Aujourd'hui, vous la connaissez, c'est une chanson. Et sans ça, sans ce ça, l'histoire se serait évanouie, envolée, disparue. Une chanson, une poésie fragile, a réussi à traverser le temps en transportant l'histoire, toute l'histoire, notre histoire, compliquée, plus compliquée que ça. Les chansons illustrent, accompagnent, symbolisent l'histoire. Mais il est rare qu'une chanson contienne toute l'histoire, qu'une chanson transporte l'histoire comme un passage clandestin et nous transporte aussi, nous ouvre le cœur et l'esprit pour que l'histoire y entre dans sa complexité, dans sa richesse et nous incendie et nous donne envie et nous laisse en vie. Voilà. L'affiche rouge, la chanson, le poème d'Aragon, l'air de Léo Ferré, chanté par Léo Ferré. Aujourd'hui, il y a quelques jours, le 21 février, on a célébré le 60e anniversaire de l'affiche rouge, c'est-à-dire de l'histoire que raconte cette chanson, l'affiche rouge, de toutes les façons dont on peut espérer porter la mémoire, par la parole, par l'écrit, par l'image, par le monument, par la cérémonie, tous ces moyens par lesquels nous espérons arracher quelque chose à l'acide du temps qui dissout tout, eh bien, c'est un moment exceptionnel, un cas très rare dans l'histoire où une chanson à elle toute seule, un poème et un musicien et une voix, celle de Léo Ferré, ont réussi à devenir le ça qui nous ouvre et qui nous renvoie et qui nous rapporte et qui nous ramène à cette épopée super bouleversante qui a été celle du groupe Manouchian, celle de la du groupe FTP Moï. On va évoquer aujourd'hui avec Denis Péchanski à l'occasion de cette 60e célébration aujourd'hui jusqu'à 18h là-bas si j'y suis, l'affiche rouge.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes. Ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite. 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Semblait vous voir français de préférence. Les gens avaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents.
Bonjour monsieur.
Monsieur.
On cherche le carré des fusillés. Vous savez où c'est?
C'est dans l'autre cimetière, monsieur. Il se trouve là-bas.
C'est pas là, celui-ci, alors?
Non.
On s'est trompé, alors.
Donc au cimetière commun.
Parisien.
De l'autre côté. Bon, alors on change de cimetière, là. Merci, voilà. Monsieur.
Bah, je vous en prie, bonne journée.
Alors, deuxième cimetière.
40e division. On est dans la 40e division.
Ah oui. Ah, c'est toutes les tombes qui sont là, toutes les croix là, blanches.
Ouais.
Ah oui, donc il y a tout un. Sur une grande pelouse, des croix blanches, toutes les mêmes. Il y en a des dizaines et des dizaines, il y en a combien?
100, 400.
Ouais, c'est émouvant quand même. Hein. Ça ressemble presque à un cimetière américain, là, toutes ces croix identiques, comme ça, les cimetières militaires américains, qu'on voit un peu partout en France.
Et puis là-bas. Il y a des croix et puis.
Et puis par moment, il n'y a pas de croix, oui.
Des tombes avec des étoiles de David. Comme Salomon Shapira. Comme Horace Feld. Donc la paire Pozzi, Carlo Pozzi aussi.
Ah, Carlo Pozzi, oui. Carlo Pozzi, né le 29 avril 1902, FFI, décédé le 29 décembre 1941. Et lui, il n'y a pas de croix, hein. C'est, ni d'étoiles juives. Il n'y a rien.
Non.
Pierre Snocco, mort pour la France.
Peter Snocco, c'était un.
Et là, il y a marqué Pierre, là. Pierre oui, Snocco, oui. Hein? C'est francisé entre temps.
Oui, oui, Peter Snocco était un Tchèque qui faisait partie aussi de ces francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, donc il était un étranger.
Interné, je vois, c'est écrit interné, mort pour la France le 6 octobre 1943.
Un bijou de famille, l'histoire de l'affiche rouge. Un bijou de famille, ça se laisse pas dans un tiroir, ça s'accroche pas au mur, ça, on laisse pas ça sous verre, ça se porte. Un bijou comme celui-là, ça se porte au doigt, ça se porte au cou, ça se porte au bras, ça se porte au poing. Un bijou comme celui-là. Mais de quelle famille on parle là? La famille juive. Oui, ils étaient nombreux sur la fiche rouge de juifs venus de Pologne. Ils ont beaucoup donné. Arméniens aussi, oui, de cette famille-là aussi, arménienne. Et italiens, et espagnols, et roumains, de partout. Francs-tireurs, partisans, main d'œuvre, immigrés, c'était des étrangers. Et leur nom à prononcer était difficile et sont toujours difficiles. Ils étaient toutes ces familles, mais oui, leur première famille, c'était l'International. Ils savaient toutes les paroles de l'International. L'International, parce que, bon, il y avait des nations, mais c'était des enfants aussi de l'universel, c'était des enfants des Lumières, c'était des enfants de cette France pour laquelle ils sont morts. Mort pour la France, quand il disait mort pour la France, il mourait pour cette France-là. Famille de la famille communiste, oui, 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 aussi, mais pas seulement. Tous n'étaient pas communistes. C'est beaucoup plus large que ça. Leur motivation aux uns, c'était que ils étaient tous très jeunes, c'était des gamins, et leur motivation, pourquoi s'engager? Risquer sa vie, c'était pas des gens qui voulaient être sacrifiés, c'était pas des martyrs, c'était des gens qui voulaient gagner, qui voulaient renverser, qui voulaient lutter. Et leur motif, c'est Manouchian, c'est 1915, c'est le génocide des Arméniens. Voilà ce qu'il faisait courir. Voilà ce qu'il faisait que cet homme écrivait, vivait, se battait, luttait. Et puis les autres, les Juifs venus de Pologne, d'Europe, eh bien évidemment, c'était qu'ils avaient vu certains, déjà, leurs parents partir. Et ça, c'était le motif de leur lutte. D'autres avaient participé à la guerre. On soutient la République dans les brigades internationales en Espagne, et ils avaient vu aussi, voilà ce qui les motivait. Mais de ces histoires, de ces aventures, de ces expériences personnelles liées à leur communauté, ils s'ouvraient au monde, ils n'enfermaient pas leur cause à l'intérieur de leur communauté, de leur groupe. Ils ne s'enfermaient pas, au contraire de ce qu'ils avaient vécu, de ce dont ils étaient chargés, eh bien, ils s'ouvraient au monde, ils essayaient d'apporter quelque chose au monde, sans savoir qu'aujourd'hui, 60 ans après, nous en reparlerions.
Je m'appelle Jacques Farber, je suis d'origine juive polonaise, je suis arrivé en France en 1930, et en 1941, je suis rentré dans la résistance et j'en ai fait des actions armées avec Marcel Reimann et d'autres.
Charles Mitzvicker, né à Chelles, Pologne. Je suis rentré en France en 1934 et en FTP, j'ai commencé en 1942 avec Marcel Reimann.
Je suis dans Birgit-Jean. Je suis rentré dans la résistance à l'âge de 16 ans et demi. Je suis juif d'origine polonaise. J'ai combattu dans le deuxième détachement FTP avec Marcel Reimann, Elek, Fingerzweig et tous les autres. J'ai été arrêté par la Gestapo et déporté au camp de Chrutov.
Un matin très tôt du mois de février 1943, Charles Mitzvicker, alors âgé de 30 ans, et Jean Lamberger, qui n'en avait que 17, guettaient la sortie d'un détachement allemand de la caserne des Invalides. Quand Charles les aperçut, bien que le ciel fût limpide, il ouvrit tout grand son parapluie. À ce signal, Jean déballa un tuyau de gouttière et le déposa dans une poubelle. Le détachement, réglé comme un métronome, mettait 30 secondes pour arriver à la hauteur de la poubelle. La bombe à retardement en mettait tout autant pour exploser. Il y eut des morts et des blessés. Ceux qui pratiquèrent la lutte armée contre l'occupant nazi n'étaient pas tous juifs, n'étaient pas tous communistes et n'étaient pas tous étrangers.
Qui étaient-ils en réalité? Des ouvriers, des étudiants, aimant la liberté dans leur pays d'origine, mais aussi en France, l'aimant à sacrifier leur vie pour elle. Ils étaient italiens, hongrois, français, polonais, espagnols, arméniens, comme les chefs du détachement immortalisé par le poème d'Aragon, Misak Manouchian, et il y avait parmi eux une femme, Olga Bancic, roumaine, que les nazis décapitèrent à la hache le jour de son 32e anniversaire. Mais contrairement aux souhaits de l'occupant, le procès des 23 fut, dès ce triste mois de février 44, le symbole de la solidarité entre Français et émigrés, une page de gloire des émigrés. Il sera l'illustration de la solidarité des peuples dans la lutte pour l'indépendance, la liberté et la paix.
Et regardez, encore d'autres là-bas. Regardez la tête de Manouchian, le monument.
Ah oui, un monument. Ah d'accord. Misak Manouchian.
Voilà le monument au 23 de l'affiche rouge. 22 plus 1 que il y avait une femme dans le groupe, Olga Bancic, qui a été envoyée en Allemagne et qui a été décapitée en Allemagne, à la hache, à Stuttgart. Et les 22 autres ont été exécutés. Manouchian, Botsov, Marcel Reimann, Alfonso, Celestino Fontano, Geduldich, Weichbrot, Schitz, Kloarek. Manoukian aussi. Manoukian. Il y avait Manoukian et Manoukian dans l'équipe. Manoukian était le chef militaire du groupe.
Parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles, hein?
Eh oui. Fingerschweig. Non, difficile à prononcer, mais enfin, ils sont... C'est quand même... Ce symbole est quand même terrible. Voilà des hommes et des femmes qui ont été repérés, filés, arrêtés, torturés.
Denis Péchanski.
Par la police française. Donc des étrangers se battant pour la libération de la France, arrêtés par des policiers français, travaillant main dans la main avec la police allemande. C'est un symbole dur, très dur. T'es là. BS2, la deuxième brigade spéciale des renseignements généraux, chargée de ce qu'on a appelé la lutte contre les communaux terroristes, et qui a été à l'origine de cette arrestation de ce groupe de résistants militaires qui menait la guérilla urbaine à Paris. Ils sont fait arrêter le 16 novembre 1943. On pourrait dire que cette histoire, c'est aussi bien l'histoire de l'action de ces résistants, avec des opérations très spectaculaires, comme l'exécution de Ritter, qui était l'adjoint allemand, hein, du négrier de l'Europe, le représentant du négrier de l'Europe allemand en France.
C'est-à-dire qui organisait le travail obligatoire, c'est ça?
Exactement. Ouais. Qui ramassait un maximum de main-d'œuvre pour l'Allemagne. Il avait un adjoint qu'il avait envoyé en France, Ritter. Et Ritter va être exécuté en septembre 1943 par l'équipe spéciale de CFTP, Moïse de la région parisienne. On a des actions très spectaculaires.
Et ça, c'est un signe très fort. Est-ce que c'est la première fois qu'un haut responsable allemand comme ça est flingué dans la rue, en pleine rue,
oui,
en Paris?
Rue Pétrarque.
Dans le 16e arrondissement.
Oui, c'était un groupe de trois, dont Marcel Reimann. Quand on voit l'image de Marcel Reimann, parce qu'il y a des films ont même été faits par les Allemands pour montrer ces comme ils disaient, ces têtes de voyous, têtes de bandits, alors qu'il y a une tête d'ange, Marcel Reimann, une tête d'ange. Et c'est un gamin, il a 20 ans. Bon. Et il est l'un des membres de ce groupe, quoi.
Ma chère petite maman, quand tu liras cette lettre, je suis sûr qu'elle te fera une peine extrême et je serai mort depuis un certain temps et tu seras consolé par mon frère qui vivra heureux avec toi et te donnera toute la joie que j'aurais voulu te donner. Excuse-moi de ne pas t'écrire plus longuement, mais nous sommes tous tellement joyeux que cela m'est impossible quand je pense à la peine que tu ressens. Je ne puis te dire qu'une chose, c'est que je t'aime plus que tout au monde et que j'aurais voulu vivre rien que pour toi. Je t'aime, je t'embrasse, mais les mots ne peuvent dépeindre ce que je ressens. Ton Marcel, qui t'adore, et qui pensera à toi la dernière minute, je t'adore, et vive la vie. Marcel. Mon cher Simon, je compte sur toi pour faire tout ce que je ne puis faire moi-même. Je t'embrasse, je t'adore, je suis content, vis heureux. Rends maman heureuse, comme j'aurais voulu le faire si j'avais vécu. Vive la vie, belle et joyeuse, comme vous l'aurez tous. Préviens mes amis et mes camarades, je les aime tous. Ne fais pas attention si ma lettre est un peu folle, mais je ne peux pas rester sérieux. Marcel. Deux lettres de Marcel Reimann à sa mère et à son frère, prison de Fresnes, 21 février 1944. Arrêté. Le 16 novembre 1943, Marcel Reimann est condamné à mort avec 22 camarades. Sa photographie figure sur la fameuse affiche rouge des nazis, présentant les résistants de la Moïse comme une armée du crime avec la légende Reimann, juif polonais, 13 attentats.
Les porteurs de fleurs.
Ah, voilà, il y a le cortège qui va partir, on est porte de Choisy, là. Hein.
Comment
on va jusqu'au cimetière, là. Hein.
Oui. Ouais.
tous les ans, vous venez commémorer?
Tous les ans, c'est pas une obligation, c'est un devoir pour ceux qui ont su ou qui sont encore là, qui ont fait toute la résistance pendant des années. C'est un travail de mémoire, c'est important pour savoir que ça existait.
Vous avez un beau drapeau là.
Hein? Ah ouais. C'est le drapeau des anciens.
C'est marqué dessus.
L'amicale des résistants et des anciens résistants juifs. C'est-à-dire, moi j'étais, pendant 3 ans, j'étais un résistant assez violent, comme pour toujours, pour venger mes parents qui ont été déportés. Mon père a été arrêté, il est mort à 40 ans, à Auschwitz, et ma mère à 36 ans, et moi-même est rescapé de la rafle du Veldiv.
Ah bon?
On est peut-être 4 ou 5 rescapés de cette rafle. Bon, ben, c'est un devoir pour peut-être expliquer qu'il peut arriver encore des choses comme ça. Tous ceux qui ont été fusillés, c'est tous des garçons qui, au mépris de leur vie, ils ont fait le sacrifice de leur vie pour justement pour avoir la liberté que nous avons actuellement.
Vous aviez quel âge, vous, à l'époque?
Moi, j'avais 17 ans. 16 ans et demi.
16 ans et demi,
là. Mais tous mes camarades qui étaient là avaient aussi 17 ans, 18 ans. C'était des... Ils avaient perdu toute leur famille. Vous comprenez? C'est aussi ces choses-là.
Là, tout le monde s'aligne, là, se met en rang d'oignon avec son drapeau. Hein, tous les vieux monsieur.
C'est tous des vieux monsieur qui ont encore... qui peuvent encore marcher.
Ah, voilà, ça y est, on commence, on part. Attention, il faut bien s'aligner.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est une trentaine.
Voilà, avec une quinzaine de personnes devant, avec des gerbes de fleurs.
Absolument, oui.
Sur le trottoir, voilà, porte de Choisy.
Et on marche comme ça jusqu'au
cimetière.
Jusqu'au cimetière. Et là, il y a une cérémonie, c'est important. Hein.
C'est émouvant, hein, quand même. Hein.
C'est émouvant, et puis... Gloire à ceux qui sont morts pour que vive la France.
Écrit sur le fronton du monument.
Alors, évidemment, ils avaient des motivations différentes, ces étrangers. Hein. C'était des étrangers qui...
Alors, d'où ils venaient? Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Donc...
Itinéraires les plus divers. Hein. Par exemple, Manouchian. Manouchian a été tout simplement marqué par le génocide... qui a visé le peuple arménien en 1915.
Alors Manouchian, c'est le chef, hein, à ce moment-là.
Tout à fait, c'est le responsable militaire du groupe. Et Manouchian est venu en France très marqué par cette histoire de l'Arménie martyrisée par la Turquie en 1915, perdu ses parents.
Ah ouais.
Donc, il a ça en tête. Il s'installe en France.
Il a quel âge?
Il vient très vite en France, des 10-15 ans. Et il va être poète, un écrivain, un poète, dans la mouvance communiste, dans les années 30, comme beaucoup de ces étrangers. Mais vous avez aussi des gens comme Botsov ou comme Olga Banchik. Tenez, prenez Olga Banchik, c'est une Roumaine. Elle va venir dans les années 30, c'était une syndicaliste en Roumanie, elle va être poursuivie, elle va être emprisonnée. Et cette expérience de la clandestinité dans les pays autoritaires de l'Europe centrale et orientale a été très importante pour une partie d'entre eux. Hein.
Ils sont tous communistes ou pas?
Oh, communistes ou sympathisants communistes ou de familles communistes ou très influencés par ce...
Des militants à la base quand même, non?
Des militants, mais il y a plein de gamins là-dedans qui sont souvent de familles... de militants, mais eux-mêmes se sont engagés parce que, eh bien, parce qu'ils étaient espagnols et que ils avaient combattu pour l'Espagne républicaine, renvoyés en France par Franco en 1939, vont se retrouver dans les camps d'internement du sud de la France, vont s'échapper et vont s'engager dans la résistance, ou bien des volontaires dans les brigades internationales, et vont en plus utiliser cette expérience de la lutte. C'est pas par hasard si en 1943, il n'y avait plus que ces étrangers-là pour mener la lutte armée à Paris.
Ouais.
C'est pas parce que les Français ne voulaient pas se battre. C'est parce que pour la plupart, ils avaient été arrêtés avant. Il n'avait pas cette même expérience de la clandestinité.
Parce qu'à ce moment-là, ils sont quasiment les seuls à vraiment faire de la lutte armée dans Paris.
Mais en 43, ils sont les seuls, les autres ont été arrêtés. Il y a eu une année 42 terrible. Terrible. La police française a été particulièrement efficace dans la répression. Une lutte sans merci, mais il faut aussi comprendre, imaginer le rapport de force. On se dit toujours, oui, cette résistance qui a multiplié les actions, qui comprenait des centaines et des centaines de combattants. Non ! Les combattants là du groupe Manouchian, qui étaient les seuls à mener la lutte armée à Paris, en août 1943, ils étaient 65. Tout compris.
Ces crimes ne sont pas des crimes français. Derrière vous, pauvres pantins sanglants, il y a le bolchevisme moscoutaire, l'espagnol des brigades rouges, le juif des ghettos d'Orient. Il y a chez nous, comme partout, des dévoyés et des égarés. Et vos attentats à vous sont étudiés et menés avec une technique qu'on apprend dans les écoles soviétiques. La balle dans la nuque est une signature.
Comment vous vous appelez ?
Stéphane Skurnik. Stéphane, c'est mon nom de guerre. Et tout le monde m'appelle déjà comme mon nom de guerre.
Ah, depuis lors, on vous appelle comme ça ?
Pendant la guerre, on m'a appelé comme ça. Et puis, je suis resté comme ça. C'est seulement dans la famille la plus proche que je suis Régine.
Et alors, vous avez un lien avec le groupe Manouchian ?
C'est mon frère là-bas qui jette les bombes, tout ça.
C'est son frère qui balançait les bombes dans les garages de...
C'était Jean Lamberger.
C'était le frère Stéphane qui était de la bande de...
Manouchian ?
Ouais, Manouchian.
Au début de la guerre, j'étais dans une cellule avec Shlamak Jivac et Vili Shapiro, qui sont dans l'affiche rouge.
Qui ont été fusillés, oui.
Qui étaient fusillés.
Et vous aviez quel âge ?
23 ans. Et ils étaient responsables pour le travail des syndicats, c'est-à-dire de faire des sabotages, etc. Et moi, à l'époque, j'étais dans les Moïs.
La main-d'œuvre immigrée, hein, c'est ça ?
C'est ça. Alors, j'avais 4 sections de langues. Alors, j'avais les Roumains, les Hongrois, les Juifs et puis les Espagnols. Alors, c'est moi qui transférais les ordres, les comptes rendus et parfois des armes. Moi, je suis arrivé en 1936, j'avais 18 ans, de Pologne. Déjà en Pologne, j'étais dans la jeunesse communiste. Et en Pologne, les partis communistes étaient illégaux. Et je suis venu ici comme réfugié politique. Parce qu'il y avait une manifestation. Et j'ai parlé à la manifestation. La police m'a arrêté. Les ouvriers se sont battus. On m'a libéré. Et depuis, je ne suis plus rentré chez moi. Je suis arrivé en France. Et là, je me suis engagé aussi tout de suite. Donc, il y avait la guerre d'Espagne. J'ai voulu partir en Espagne.
Ah.
Mais on ne prenait pas les femmes. Alors, sauf les infirmières.
Vous étiez toute jeune en plus à l'époque. Hein?
J'avais 18 ans. Alors, je me suis engagé. J'ai fait un cours accéléré d'infirmière.
Ah oui.
Mais jusqu'à ce que j'ai terminé, la guerre était terminée en Espagne. Voilà.
Vous ne parliez pas bien le français à l'époque ?
Non, non, je ne savais pas. Après, j'ai fait l'Alliance française, j'ai appris. Pendant la guerre, nous étions tous dans la résistance. J'avais un frère qui était fusillé et mes deux frères étaient déportés. Un de mes deux frères, c'était dans le groupe Manouchian.
Ah bon ?
Un frère. Il était arrêté. Vous savez, il a subi les interrogations. Tout d'abord dans la brigade spéciale et puis après dans les Gestapo. Et il n'a pas parlé. Tiens, ça c'est une belle histoire. Quand mon frère, il était massacré par la brigade spéciale encore.
Allemande ?
Non, française.
Française, ah la vache.
De Pétain. Alors, on l'a laissé presque moitié mort dans un petit coin. Alors, et ils sont partis. Alors, il y a un petit policier, un agent de police qui s'est approché de lui, un inspecteur, et il lui a dit, tiens bon mon petit, on les aura. Oui. Et puis, après on l'a déporté. Voilà ma famille.
Enfin le printemps. Après ce dur et pénible hiver, le premier sourire du renouveau réchauffe les cœurs. Paris a repris sa physionomie printanière.
Pour les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée, c'est l'hécatombe. Les arrestations se succèdent en chaîne. Pour continuer le combat, les responsables communistes au cadre sont condamnés à recruter des volontaires de plus en plus jeunes.
Et vous qui n'étiez pas française, qui parliez à peine le français à ce moment-là, oui. Quand vous êtes arrivée, pourquoi vous vous êtes engagée pour défendre la France ? Au nom de quelles valeurs vous vous êtes engagée ?
C'était contre le fascisme. Là, j'ai compris que et liberté, égalité, fraternité, c'était pas des 20 mots.
C'est incroyable, hein, vous avez quand même une vie incroyable.
Oui, enfin incroyable. On vivait, c'était pour nous tout à fait normal.
Vous ne voulez pas être un héros, une héroïne?
Non, pour moi c'était normal, c'était... je pouvais pas faire autrement. Pendant la guerre, quand j'étais admis à, comme agent de liaison à l'EMOI, on m'a donné un sac. Un sac, pas avec un double fond, mais avec des doubles parois.
Ça vous servait à mettre les documents, à planquer les documents.
L'uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. »
Prison de Fresnes, le 21 février 1944. Yanine Kacheri. Aujourd'hui, à 3 heures, je serai fusillé. Jusqu'au dernier moment, je me conduirai comme il convient à un ouvrier juif. Je vais mourir, mais ne m'oublie jamais. Et quand on aura la possibilité, si quelqu'un de ma famille vit encore, raconte-lui. Je vais mourir, mais toi, tu vivras. Et je te souhaite le meilleur pour ton avenir. Je te quitte, ainsi que tous ceux que j'ai connus. Et courage, courage, et encore courage. L'avenir et le lendemain meilleur ne sont plus pour moi. Je t'embrasse, tes parents, tous les amis. Vis, ton très cher Grzegorz Szlamek. Post-scriptum. Mes affaires sont restées à la Villa Verlaine.
Nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes. Gerbes de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance à Nacre. Paul Barapoyou !
Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes. Ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans,
gerbe
déjà.
Gerbe à monsieur le maire d'Ivry.
Cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. noir de barbe et de nuit, hirsute menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles.
Cher des garibaldiens, Ugère.
Qui cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, français de préférence.
Cher des conseillers généraux d'Ivry.
Les gens allaient sans yeux pour vous, le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos morts pour la France. Les mornes matins étaient différents.
Cher du souvenir des fusillés du Mont-Valérien et Île-de-France.
Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent.
Marie-toi,
sois heureuse et pense à moi souvent, toi, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, en arrivant.
Cher déposé par monsieur l'ambassadeur d'Arménie.
Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle, que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma mélinée, ô mon amour, mon orpheline.
Cher déposé par la FNDIRP.
Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, mais nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 criait la France en s'abattant.
Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous.
Et vous avez dit bonheur à ceux qui vont survivre. C'est l'ultime lettre que Manouchian a adressée au sien, à Méliné. Tout avait la couleur uniforme du givre. Et c'était un jour comme aujourd'hui, regardez par la fenêtre, voilà, il y a du givre là où vous êtes. Et puis c'était des étrangers, regardez par la fenêtre, il y a des étrangers, des sans-papiers, des clandestins, des immigrés qui viennent manger le McDo des Français. À l'époque on disait le pain des Français. Il ne venait pas du Maghreb ou du Mali ou du Sri Lanka, mais de Pologne, d'Espagne, d'Italie, de Roumanie. Au début des années 30, la France compte 3 millions d'immigrés, et la plupart ont fui leur pays pour des raisons économiques, mais d'autres pour des raisons politiques. Ils se sont battus en Espagne, ils fuient le fascisme qui monte dans leur pays, ils rêvent de grands soirs et de matins qui chantent, et ils sont étrangers. Comme ceux qu'on voit par la fenêtre ici, aujourd'hui. Et ils étaient des résistants. Et la résistance, est-ce qu'il y a des résistants aujourd'hui? Ouais, regardez, par la fenêtre, il y en a. Pas nombreux, mais eux n'étaient pas nombreux non plus. Mais contre quoi résister aujourd'hui? À l'époque, c'était la même question qu'on posait. Contre quoi voulez-vous résister ? C'est pas vous qui allez changer le monde. Vous êtes des donneurs de leçons. Vous n'avez pas de droit. Vous n'êtes pas compétent. C'est la question qui se posait déjà à l'époque. Et ce que nous raconte ces voix, ce que nous dit cette chanson, l'affiche rouge, c'est ça. C'est l'insoumission, c'est la désobéissance, c'est la voix de ces hommes-là.
J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant, pour mon honneur, et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi et à ta sœur, et pour mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide de mes amis, qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents, en Arménie. Je mourrai avec 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je ne fais de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine.
La première fois que je suis allée dans sa chambre, au 8e étage, j'ai vu sur le mur plusieurs petites phrases. Et parmi cette phrase, il y avait aussi une phrase que beaucoup de personnes se dispersent dans l'amour, mais peu de personnes peuvent se concentrer. Il disait que les animaux... ils changent tout le temps, mais la différence de l'homme est que quand il a trouvé un amour qui lui donne toute satisfaction, aussi bien physiquement, moralement, et qui partage ses pensées et la vie passée. Vous savez, nous étions tous les deux orphelins. Nous n'avons pas eu l'amour de la famille. Moi, par exemple, je n'ai jamais prononcé ni maman, ni papa. Donc, chez certaines personnes, ça donne une aigreur, vous savez. Il devient un peu méchant. Pourquoi il serait, par exemple, si frappé par la vie, par la nature? Mais chez certaines personnes, ça enrichit. Et ça enrichit et ça donne une idée, au contraire, de se donner entièrement à l'humanité souffrante.
Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie. Et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau et à ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien, bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade. Ton mari, Manoukian Michel. Postscriptum, j'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armène.
Cette affiche qui est devenue une affiche de légende, quelle est son histoire? Elle est collée sur les murs de Paris par les Allemands.
Oui, tout de suite. En février 1944, c'est le procès.
C'est le procès.
Donc les gars du groupe là ont été arrêtés. Groupe,
ils ont été arrêtés donc autour du 16 novembre 1943. Un procès est organisé, cour martiale à Paris, par les Allemands. Et dans ce contexte-là, ils vont mettre partout une affiche dans Paris.
Sur fond rouge, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'affiche rouge, avec des photos en médaillon donc des 23 gars autour de Manouchian, du chef de bande, comme il l'appelle, où il y a inscrit, en gros, en haut, délibérateur, point d'interrogation, et en bas, après des photos où on voit les gars, évidemment, au mine patibulaire et pour cause, la libération par l'armée du crime, point d'exclamation.
Ce qui est d'étonnant, c'est qu'il y a une forme de... On a complètement renversé cette image, cette affiche. C'est-à-dire que, alors même que c'est une affiche de propagande réalisée par les Allemands, elle était complètement renversée et elle devient comme le symbole du combat de ces résistants étrangers. D'abord, au moment même, on a des témoignages dans les journaux résistants de l'époque de passants qui vont mettre une fleur, rendre hommage à ces combattants, alors même que c'est une affiche de propagande.
Et puis c'est une affiche raciste. En mettant les noms en avant des gars, aux consonances pas très françaises et juives pour la plupart, on voit bien le but de la manœuvre.
Ah ben quand on lit les journaux de l'époque, on en a une belle illustration. Hein. Par exemple, j'ai retrouvé un texte paru dans Paris Soir, hein, le 21 février.
Manouchian, journal collabo donc.
Oui, qui était journal légal, qui était très lu. Hein. Manouchian, l'homme aux 150 assassinats. Et le lendemain, on lit, dans le même journal, on entend maintenant sans surprise l'odieuse monotonie, l'effrayante énumération des crimes de la bande. À une ou deux exceptions près, on ne lit aucune émotion sur ces visages de brutes. On note les regards haineux et sournois des juifs. Alfonso a le visage classique du terroriste, teint olivâtre, cheveux corbeaux, œil vif et mauvais. Le Hongrois Botsov, visqueux individu au visage de chouette, le plus réussi peut-être de cette horrible galerie de terroristes. Voilà la presse aux ordres.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses.
Merci à tous, merci à Denis Péchanski, Régine Lamberger, Carlos Pizarro, Piotr Blowinski, Guy Krivopisko, Mustapha, Arsène Chakarian. Merci à David Babin, le musicien, ce jeune, très jeune musicien du groupe Bab X, que vous avez entendu dans une des versions. C'est très difficile de refaire des versions de l'affiche rouge aujourd'hui, mais ici à Esquet, c'est très beau. C'était un reportage de Thierry Scharf, répondeur Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, musique Koyen Guyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. On se retrouve demain à 17h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.